Au bord de la Méditerranée, entre le Languedoc et la Provence, on a un temps un petit peu plus calme, moins pluvieux, mais un ciel toujours très encombré partout ailleurs. Alors le temps est plus calme, certes on a un petit peu moins de pluie, mais enfin ça reste un ciel encore nuageux, un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur l'ensemble des régions. Attention ce matin au brouillard dans le nord-ouest entre la Normandie et la Bretagne, et puis cet après-midi le ciel va se couvrir sur la Bretagne, ce qui annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Voilà, on reste dans ce cycle de perturbations et de nuages. 1 à 15 degrés ce matin et cet après-midi, 15 à 26 la maximale pour la Corse.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h. Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Le maire de Châteauroux dénonce l'ultra-violence qui gangrène notre société. Ce sont ses mots après la mort d'un adolescent de 15 ans hier lors d'une bagarre à l'arme blanche. Son agresseur présumé est un jeune Afghan déjà mis en cause dans d'autres affaires. Explication dans ce journal. Pas de sanctions à Sciences Po Paris contre les étudiants pro-palestiniens qui ont bloqué la grande école la semaine dernière. Leur mouvement va-t-il s'étendre à d'autres universités comme aux États-Unis? Vous allez l'entendre, les facs anticipent toute mobilisation. Reportage Europe 1 à Strasbourg. Dans ce journal également, le monde hospitalier en pleine vague MeToo. Les représentants des personnels vont être reçus aujourd'hui au ministère de la Santé. Et puis le PSG, sacré champion de France, c'est la 12e fois de son histoire. Ça s'est passé hier soir après la défaite de Monaco face à Lyon, 3-2. Le journal de 5 heures. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Encore un adolescent de 15 ans mortellement blessé ce week-end après une bagarre à l'arme blanche. Cette fois, c'est à Châteauroux, quartier Saint-Denis. Mathis a été poignardé plusieurs fois dans le dos et au thorax. Son agresseur présumé, 15 ans lui aussi, a été placé en garde à vue avec sa mère. Il s'agit d'un jeune d'origine afghane, déjà défavorablement connu des services des forces de l'ordre. Écoutez, Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police.
Le présumé auteur du meurtre était déjà en garde à vue la semaine dernière pour une agression également au couteau. Il avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Les mineurs ont un régime spécifique, une excuse de minorité. Cette excuse de minorité, elle joue pleinement. Elle a été utilisée par le magistrat qui a libéré ce jeune et qui l'a placé sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'il aurait pu le mettre dans un centre éducatif renforcé en attendant ou l'écarter du secteur? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser et des réponses doivent être apportées.
Éric Henry au micro Europe 1 de Martin Lange. L'ultra-violence des jeunes dénoncée par le maire de Châteauroux sur les réseaux sociaux, Gilles Avroux, appelle, je cite, à une peine exemplaire, une justice intransigeante d'une sévérité extrême pour enrayer cet ensauvagement qui touche notre pays.
Et au sud de Lyon, justement, dans le Rhône, après les dégradations commises par une trentaine de jeunes encagoulés samedi soir, des renforts de police ont été dépêchés cette nuit à Givors.
Voitures de police et poubelles incendiées, tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Le week-end a effectivement été tendu à Givors après l'arrestation de 4 mineurs soupçonnés d'avoir agressé un jeune de 14 ans. Notez qu'aujourd'hui, Gabriel Attal doit recevoir les chefs de parti pour échanger au sujet de la violence chez les jeunes.
5h03 sur Europe 1, le gouvernement va déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique.
Oui, le leader insoumis avait comparé le président de l'université de Lille au nazi Adolf Eichmann. C'était lorsqu'il a interdit sa conférence sur la Palestine il y a quelques semaines.
La France insoumise qui soutient les manifestants pro-palestiniens, en particulier ceux qui ont bloqué Sciences Po Paris la semaine dernière.
Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Voilà ce qu'a déclaré Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, accusait les filles de jouer, je cite, un jeu dangereux et craint que le mouvement ne s'étende à d'autres grandes écoles et universités. Dans les facs comme à Strasbourg, on tente de déminer la crise avant qu'elle ne s'embrase. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman.
Colons un jour, colons toujours, mort à Israël, Palestine vivra. Dès qu'ils apparaissent sur les murs de la fac, Michel Deneken, le président de l'université, fait effacer les messages de haine envers Israël.
Il y a un acharnement sur Israël particulier. On n'a jamais dit mort à la Chine, mort à la Russie, même pas mort à la Russie. Donc les laisser, ça banalise la parole violente et c'est un cache-sexe de l'antisémitisme.
Et c'est bien là la grande crainte des universités, que le conflit amplifie les attaques envers les étudiants juifs, alors que 90% d'entre eux disent déjà être victimes de blagues antisémites et qu'un tiers cachent leur appartenance religieuse par peur des répercussions.
Nous avons mis par exemple en place une hotline où on demande aux étudiants de nous faire remonter les faits, gestes, paroles dont ils sont soit victimes, soit témoins. Et il est vrai qu'on en a.
Pour autant, Michel Deneken tempère.
Notre campus n'est pas à feu et à sang. Beaucoup de nos étudiants ne se mobilisent pas pour cette cause-là parce qu'ils comprennent qu'il y a une récupération politique derrière.
Raison pour laquelle ils souhaitent continuer d'organiser des débats sur le sujet pour éduquer les jeunes et éviter toute instrumentalisation. Strasbourg, Tatjana Gezelman, Europe 1.
Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, part en croisade contre les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital.
Il a déjà rencontré l'infectiologue Karine Lacombe qui a déclenché une vague MeToo à l'hôpital en accusant l'urgentiste Patrick Peloux de harcèlement sexuel. Le ministre va recevoir aujourd'hui les représentants des professionnels et des internes en médecine. Et au-delà du personnel médical, les femmes de ménage semblent elles aussi être la cible de certains prédateurs à l'hôpital. C'est ce qu'a constaté le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Charles Huillier.
Au tout début, je pensais que l'hôpital était un lieu sain.
Aurélie a depuis déchanté. Après un job d'été de 3 mois en tant que femme de ménage dans un hôpital du sud de la France, la faute à un cadre infirmier.
T'es bonne, j'aimerais bien te faire l'amour. Vraiment un connard et un vicieux.
Un comportement qui, au fil des semaines, est allé en s'aggravant.
Il essayait de m'embrasser, il essayait de me mettre dans une pièce pour pouvoir faire des choses avec moi. J'avais 18 ans, il en avait 40.
Un ascendant dont cet homme était évidemment conscient.
J'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent. Et vu qu'il est, cadre, il se sent carrément plus supérieur. Et j'ai l'impression que nous, les femmes, en fait, on est...
Pour ne rien arranger, une omerta régnait dans cet hôpital.
J'ai dit, écoutez, c'est pas normal que je me fasse dire des choses comme ça. Mais là, les collègues de l'hôpital, ils s'en foutaient, en fait. C'est pas normal, en tant que femme, de se dire, on n'est pas entendu.
Aurélie, qui, face à ce manque de soutien et l'attitude de ce supérieur, a préféré définitivement quitter l'hôpital et renoncer à sa principale vocation de l'époque, les études d'infirmière.
Voilà le reportage de Charles Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
On passe au sport à 5h06 sur Europe 1. Cette fois, c'est la bonne. Le PSG, officiellement champion de France de foot pour la 12e fois consécutive.
Oui, à croire que 12 est le chiffre porte-bonheur des Parisiens en tête du classement depuis la 12e journée de Ligue 1. 12 points d'avance sur leur dauphin Monaco qui s'est incliné hier 3-2 face à Lyon. C'est d'ailleurs cette défaite, Cédric Chasseur, qui a permis aux hommes de Luis Enrique de remporter le titre.
Oui, même s'il ne faut pas oublier les débuts timides de Luis Enrique sur le banc parisien, critiqué lors de ses premiers mois à la tête du PSG pour son jeu de possession ennuyeux et ses choix de faire tourner régulièrement, quitte à mettre ses cadres sur le banc. Les résultats lui donnent raison aujourd'hui et le consultant européen Alain Giresse salue son travail sur le banc parisien.
Il a créé une équipe, un ensemble, et ils ont une grande solidarité entre eux. On voit qu'il n'y a pas de hiatus sur le terrain entre les joueurs, dans la dynamique qu'ils peuvent amener à l'équipe, oui. Je crois qu'il n'a pas prétendu su maîtriser ce groupe.
Luis Enrique qui a finalement réussi à se mettre les supporters dans la poche, à l'image de Frédéric.
Il y a un très bon entraîneur. Bon, il y a des fois, il nous fait des trucs un peu bizarres, mais quand même, on va aller en demi-finale, donc...
Ou d'Aurélien, autre fan du club de la capitale.
On ne peut pas être plus fier que ce qui se passe en ce moment. On a franchement tous la conviction qu'on va remporter la Ligue des Champions cette année, à 300%.
Épreuve de l'engouement, ils seront 4000 Parisiens mercredi à faire le déplacement à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des Champions.
Cédric Chasseur.
Merci Fanny Marceau, excellent début de semaine avec Europe 1, il est 5h08.
Vous restez avec nous dans un instant, la revue de presse internationale. Alexandre, on sera avec les correspondants d'Europe 1.
Oui, et nous irons notamment au Brésil. Le Brésil qui révise sa constitution pour criminaliser la possession et le transport de drogue. D'abord les courses avec Thierry Léger, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 408 Police Speed. Dans cette confrontation où tous les protagonistes effectueront leur premier pas en compétition, celui-ci est précédé d'une flatteuse réputation. Bien né son père Frankel, un authentique champion qui effectue la monte au prix de 350 000 euros la saillie, et sa mère Polydream, gagnante de groupe 1, ont visiblement produit un poulain de qualité qui travaille remarquablement bien le matin, ce qui laisse inaugurer d'emblée une très grande performance. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 8, Police Speed.
Merci Thierry Léger, on va retrouver vos pronostics du quintet après les infos de 5h30 sur Europe 1. Très bon début de semaine à tous. Dans quelques minutes, Omblin, on retrouve Anissa Haddadi.
Oui, pour son histoire dingue, celle d'un artiste français célèbre qui a testé il y a quelques jours une voiture volante.
Ça existe.
Tiens donc.
Donc,
il a volé donc.
En voiture.
Bizarre.
occupanti sbraiocci.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Il est 5h09, c'est votre revue de presse internationale. Sur Europe 1, nous partons au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez.
Bonjour.
De quoi parlent les journaux chez vous au Brésil ce matin ?
Du Sénat qui a approuvé le projet de loi de révision de la Constitution criminalisant la possession et le transport de drogue, et ce, quelle qu'en soit la quantité. Le texte, précise le site G1, doit encore être examiné par la Chambre des députés, mais ce vote est d'abord une réaction au débat mené actuellement au sein de la Cour suprême fédérale, estime la Folha de São Paulo. Cette dernière souhaite en effet établir une distinction entre une quantité qui reste à déterminer pour la consommation personnelle de cannabis et le trafic de drogue, souligne Poder 360. Pour l'Estado de São Paulo, ce vote du Sénat souligne surtout les tensions croissantes entre le pouvoir législatif et la Cour suprême, le premier accusant la seconde d'empiéter sur ses prérogatives.
Nous sommes maintenant en Algérie. Avec vous, Nour Chahine, vous êtes à Alger pour Europe 1. Alors de quoi traitent les journaux algériens ?
Eh bien, d'une usine de lait en poudre à 3,5 milliards de dollars. Les Algériens ont fait appel aux Qataris pour réaliser ce méga projet, nous dit l'expression. Des Qataris pour pallier la faible production de lait en Algérie. L'idée semble invraisemblable. Et pourtant, explique Le Soir d'Algérie, le Qatar a réussi l'exploit de devenir pratiquement autonome en lait à travers sa société Baladna. Spécialisée dans la mise en place d'écosystèmes adaptés dans les régions désertiques, cette firme promet de réaliser le même exploit dans le sud de l'Algérie, connu pour son climat aride. En tout cas, une fois concrétisé, ce projet permettra de produire localement 50% des besoins algériens en poudre de lait. Algérie Eco rappelle qu'avec 750 millions d'euros d'importation de lait, l'Algérie est le deuxième plus grand importateur mondial de ce produit, juste derrière la Chine.
On part enfin au Kenya, retrouver la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. De quoi est-il question dans les journaux du pays ?
Des faux diplômes de certains fonctionnaires. Il serait plus de 2000 concernés, selon le président Ruto, cité par le quotidien The Nation. L'on y apprend que le chef d'État demande aux coupables de rembourser les salaires publics perçus et à la justice de faire son travail. La chaîne Citizen TV rapporte aussi les propos du président. Les faux diplômes seraient, selon lui, en partie responsables d'une dégradation des services publics par manque de compétences. En réaction sur le plateau, un élu de l'opposition se questionne sur la façon dont ces fonctionnaires sont embauchés, criant à la corruption. Le site Kenyans.co dénonce une grande escroquerie et espère que les salaires remboursés pourront aller vers des projets sociaux. Enfin, un éditorialiste dans le People Daily s'interroge : qu'est-ce que cette affaire de faux diplômes dit des valeurs kenyanes ?
Merci Alba Dufort, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, il est 5h12. Et dans un instant, les initiatives en France, mon cher Alexandre, on va parler d'une solution de télésurveillance des données médicales dédiées aux patients atteints de maladies chroniques.
Europe 1.
D'abord à 5h12 sur Europe 1, votre histoire dingue, Anissa Adadi. Alors on parle beaucoup en ce moment et régulièrement sur Europe 1 de la voiture électrique, hein, de sa difficulté à s'imposer sur le marché, de sa difficulté à décoller, je pourrais dire. Car sans mauvais jeu de mots, dans l'ombre de la voiture électrique, des ingénieurs travaillent déjà à la voiture volante.
Mmh. On en parlait, la voiture volante, il y a quelques temps. On parlait même de taxi volant sur la Seine à Paris. Vous savez, c'était un projet. On en parle de moins en moins et pourtant ça avance. L'histoire dingue que je vais vous raconter ce matin concerne un projet de voiture volante qu'un célèbre artiste français a essayé il y a quelques jours. Direction la Slovaquie, c'était la semaine dernière où la société Klein Vision a embarqué la semaine dernière son tout premier passager. Et ce passager, c'est un très célèbre français, un artiste musical. Écoutez.
Féru de nouvelles technologies, Jean-Michel Jarre.
Et depuis longtemps.
Toujours à la pointe de la technologie.
Exactement, vous l'avez reconnu. Jean-Michel Jarre est monté à bord la semaine dernière de Aircar, la voiture volante et laissée. C'est très bien passé. Je ne viens pas vous annoncer de bonne nouvelle. Il est bien. Il a bien décollé. Il a bien atterri. Tout va bien. Il a profité de ce voyage. Il a passé un excellent moment. Alors, c'est vrai que c'est un féru de nouvelles technologies. Cette voiture, elle a déjà reçu il y a 2 ans son certificat pour voler. On n'est pas sur un prototype. La société qui développe ce projet a déjà effectué 130 vols. Et
150 heures de vol.
130 heures de vol et 520 décollages. Donc, vraiment, c'est une voiture qui est rodée déjà. Mais elle n'avait jamais accueilli de passagers.
C'est marrant, on pense tout de suite à la DeLorean de Retour vers le futur.
Je pense au cinquième élément. Voilà. Vous voyez, j'ai une autre image en tête, c'est le film de Luc Besson, le cinquième élément.
Ah oui, c'est vrai aussi, ça marche. Elle ressemble à quoi alors cette voiture?
Eh bien, vous pouvez oublier tout ce que vous avez pu voir dans les films de science-fiction. Oubliez le cinquième élément, peut-être un peu plus la DeLorean. En fait, Aircar ressemble complètement à une voiture normale.
D'accord.
C'est juste que votre voiture que vous avez tous les jours à la maison peut, avec Aircar, déployer des ailes sur le côté qui se trouvent sous le châssis.
Oh là, c'est James Bond.
Mais c'est une voiture classique, c'est James Bond.
Vous avez pas volé en Twingo.
Elle a juste des ailes en option. La voiture volante fonctionne à l'essence et pas au kérosène. Donc vous voyez qu'elle est vraiment classique. Elle fait la taille d'une voiture classique. Son moteur est celui d'une très célèbre marque allemande à trois lettres. Donc en fait, c'est une voiture que vous pourrez utiliser sur Terre. Vous pouvez partir en vacances dans le sud de la France. Vous prendrez l'autoroute A7, pas de problème. Puis à un moment donné, plus les ailes.
C'est ça.
Et hop, vous décollerez.
Au niveau de Montélimar, là, quand il y a trop de monde.
Quand il y a trop de monde, voilà, vous viendrez demi-haut, tout ça. C'est ça.
Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit Jean-Michel Jarre qui teste, qui fasse le test. Les ingénieurs avaient le 06 de Jean-Michel Jarre.
Ah, alors, plusieurs raisons. La première, et vous l'avez évoqué, bon, déjà, c'est un énorme coup de pub pour la marque, mais la première, c'est surtout que Jean-Michel Jarre est un féru de nouvelles technologies et de sciences. Mais vous n'êtes pas naïf et vous doutez bien qu'il y a quelque chose derrière cet essai. Il se trame quelque chose. Pourquoi Jean-Michel Jarre est monté dans cette voiture volante? Eh bien, en fait, il est en train d'organiser un immense concert avec le guitariste et astrophysicien du groupe Queen, Brian May. Vous savez qu'il était astrophysicien, hein. Lui aussi féru de sciences et de nouvelles technologies. Ce concert, donc, organisé par Jean-Michel Jarre et Brian May, va se dérouler pendant le festival Starmus Music. C'est un festival où se mêlent musique et passion de la science. Voilà, c'est un festival vraiment, c'est les deux thèmes. Musique et science, ouais, c'est très bien. Et comme par hasard, ce festival, il se déroule où? À Bratislava,
où ça, la capitale
en Slovaquie. Exactement, là où Jean-Michel Jarre a été essayé cette voiture volante grâce à la société Klein Vision. Alors, dans le pays, cette voiture est développée, mais attention, derrière ce gros coup de com', il faut savoir qu'il y a de gros enjeux commerciaux. C'est pas juste Jean-Michel Jarre qui est parti s'amuser. L'entreprise slovaque qui a créé ce prototype vient de céder ses droits à une entreprise chinoise qui, elle, a décidé de commercialiser cette voiture volante.
J'allais vous poser la question.
Eh oui.
On peut l'acheter quand la voiture volante?
Alors, Klein Vision, ils l'ont créé. 520 décollages, 130 heures de vol. Donc, c'est pas rien pour l'instant. Elle est homologuée depuis deux ans.
Mais chez le concessionnaire, c'est pas pour tout de suite.
Chez le concessionnaire, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais vous savez, les Chinois pourraient aller très vite. Maintenant que les droits leur sont cédés, ça pourrait aller très vite. Maintenant, il faut peut-être voir si les routes sont adaptées.
J'allais parler du code de la route.
Ça
va poser, d'autres problèmes.
Est-ce que sur le périph', on a le droit de décoller?
De la circulation. Merci, Anissa Dadi.
Affaire à suivre.
Merci, à tout à l'heure, juste avant le journal de 5h30 pour la météo.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h17.
Bon réveil à tous, le journal permanent, Fanny Marceau.
Un jeune homme de 15 ans en garde à vue avec sa mère à Châteauroux, l'adolescent originaire d'Afghanistan, déjà mis en cause dans d'autres affaires, notamment pour vol avec violence, et soupçonné d'avoir mortellement poignardé hier Mathis, 15 ans lui aussi. Le maire de Châteauroux appelle à une peine exemplaire. Gabriel Attal reçoit cet après-midi les différents chefs de parti pour évoquer la violence chez les jeunes. Le gouvernement dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique. Le leader insoumis avait comparé le président de l'Université de Lille à un nazi alors qu'il venait d'interdire sa conférence sur la Palestine. Un mois de pluie en une journée à peine dans le Rhône et il va encore beaucoup pleuvoir aujourd'hui. Une bonne partie du sud-est de la France en vigilance jaune, crue, pluie, inondation ce matin. Et puis le football et le PSG officiellement champion de France pour la 12e fois après la défaite de son dauphin Monaco face à Lyon hier soir 3-2. De bon augure pour les Parisiens qui s'apprêtent à jouer leur demi-finale de Ligue des Champions.
Europe 1.
Merci Fanny Marceau. Prochain tour complet de l'actualité dans une dizaine de minutes à 5h30. Juste avant, on va écouter un petit peu de musique. On écoute qui ce matin?
La chanteuse Emma Peters qui continue de présenter son prochain album avec le nouvel extrait. Cet extrait s'appelle Multicolore.
Bienvenue si vous nous rejoignez à 5h18 ce lundi matin sur Europe 1. Les initiatives en France. On vous présente aujourd'hui une solution de télésurveillance des données médicales. C'est une solution qui s'adresse aux patients atteints de maladies chroniques.
Bonjour Daniel Cheftel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Pierre Ornus et Mathieu Godard. Vous avez créé l'entreprise spécialisée dans la e-santé Semeia en 2017. La e-santé, juste pour savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle?
Alors oui, la e-santé, en fait, c'est utiliser des outils numériques dans le secteur de la santé pour pouvoir mieux soigner, mieux suivre les patients. Alors c'est un univers très large, mais oui. À l'intérieur, vous avez des choses aussi maintenant connues des Français que la téléconsultation, mais vous avez aussi des choses encore émergentes comme ce que CMEIA fait, c'est-à-dire le suivi à distance des patients et la télésurveillance médicale.
Alors, CMEIA est donc une plateforme numérique dédiée aux patients atteints de maladies chroniques, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors, très simplement, les malades chroniques, malheureusement, ne sortent pas de leur maladie et donc ouais. Ça implique un suivi au long cours des patients. Et ce suivi au long cours, classiquement dans le système de soins, se fait avec des consultations régulières dans lesquelles le médecin découvre l'état du patient et ajuste éventuellement les traitements. Ce que l'on fait, nous, avec CMEIA, c'est pouvoir donner le pouvoir plutôt aux médecins et aux équipes de soins en général de pouvoir suivre le patient en continu avec une remontée de données permanente entre deux consultations qui permettent d'intervenir plus tôt si jamais l'état du patient se dégrade avant la consultation prévue, qui peut parfois être 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, etc. Le but de ce suivi en continu, c'est évidemment d'être plus réactif, d'éviter des dégradations trop fortes de l'état de santé du patient, d'éviter des complications et de permettre ainsi une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des maladies chroniques.
Quand on parle de maladies chroniques, on parle de diabète, insuffisance cardiaque ?
Alors oui, exactement, c'est ce genre de choses. Donc oui, ce qui vient le plus facilement à l'idée, c'est les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, le post-AVC, le post-infarctus. Mais ça peut aussi s'appliquer, par exemple, à la néphrologie. On a chez CMEIA beaucoup de patients greffés quand ils restent.
L'insuffisance rénale.
Oui, exactement, l'insuffisance rénale, un greffé rénal, il reste, et on le souhaite à tous maintenant, plus de 15 ans dans leur greffe, donc c'est une maladie au long cours, mais on peut aussi penser à d'autres patients dont s'occupe CMEIA, comme les patients atteints de maladies psychiatriques, des patients atteints de dépression, de troubles bipolaires, etc. Ça aussi, c'est une autre forme de chronicité, et qui nécessite un suivi à distance et au long cours, que l'on peut proposer aux équipes de soins et aux patients.
Donc il s'agit d'une application qu'on télécharge dans son smartphone. Elle rassemble toutes les données médicales. Ces données, elles viennent des hôpitaux, des laboratoires d'analyse biologique, c'est ça ? De l'historique de l'assurance maladie également ?
Alors, exactement. Si vous voulez, la télésurveillance médicale, basiquement, c'est un tuyau. D'un côté, il y a le patient, avec évidemment une application. De l'autre côté, il y a les équipes de soins. Il y a un tuyau sécurisé qui permet la remontée de ces données. Et au bout de ce tuyau, il y a ce qu'on appelle un moteur d'alerte qui permet de prévenir les équipes de soins quand il y a une donnée remontée qui est préoccupante et qui nécessite au moins une observation de leur part, sinon une intervention. Et la particularité de ce qu'on fait avec CMEIA, c'est que, évidemment, on continue à donner une application aux patients, mais beaucoup d'outils de télésurveillance se contentent de cette application et du coup demandent une discipline très importante aux patients de saisie de données quotidiennes, hebdomadaires, etc. Et ce que nous, on a pu constater au moment où on a démarré CMEIA, c'est que ce modèle-là, il a ses limites parce qu'assez rapidement, il n'y a plus beaucoup de patients qui saisissent des données et ça finit par ne s'adresser qu'aux meilleurs élèves, entre guillemets, et qui sont ceux qui en réalité en ont le moins besoin parce qu'ils sont déjà très bien soignés. Et donc nous, on a voulu inverser la logique et dire c'est à nous, CMEIA, d'aller chercher les données un peu partout dans le système de soins. Donc vous avez cité les rapports d'analyse, les laboratoires d'analyse, les données de l'assurance maladie, des données qui peuvent être captées directement sur le smartphone du patient, des données d'objets connectés. En fait, on prend toutes ces données-là qui sont nécessaires au suivi, on évite de les demander au patient, et ce qui fait que bon élève ou pas bon élève, on réussit à capter des données, à assurer le suivi. Et ça marche, ça veut dire qu'on casse ce plafond de verre laisser la télésurveillance aux patients déjà les mieux soignés et on arrive à avoir plus de patients dans les patients qu'on suit dans les déserts médicaux que la moyenne nationale, plus de patients défavorisés dans les patients qu'on suit que la moyenne nationale et donc on montre qu'on arrive à atteindre ces publics un peu difficiles à atteindre et où beaucoup de gens dans le système de soins cherchent la martingale sur comment mieux les soigner.
Vous parliez de sécurité pour le patient, hein, Daniel Cheftel, puisqu'une anomalie peut être plus rapidement détectée. C'est un gain de temps aussi pour le personnel soignant, un gain en efficacité.
Ah bah oui, parce que si vous voulez, nous, ce qu'on remonte automatiquement aujourd'hui, quand vous allez dans un service hospitalier, bien souvent, les données de biologie, elles arrivent encore par fax. Oui. Et donc, ça veut dire qu'un fax qui arrive, c'est une secrétaire médicale pour le sortir du fax et le mettre dans la bonne bannette du médecin. C'est une infirmière qui va faire une petite croix sur la biologie qui est préoccupante. Et enfin, c'est un médecin qui va le lire et prendre des décisions. Nous, en fait, toutes ces premières étapes, on se sert du numérique pour les rendre automatiques. Et donc, ça arrive directement sur le poste de travail de l'infirmière ou du médecin qui est directement amené à prendre des décisions médicales dans le suivi du patient. Donc effectivement, ça se traduit par une meilleure sécurité, mais aussi par un gain de temps.
Merci beaucoup, Daniel Cheftel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la start-up Semia, une solution de télésurveillance médicale des maladies chroniques certifiée par l'assurance maladie. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Europe 1, bonjour.
5h-7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
On est ravis de vous retrouver, chers auditeurs, ce lundi matin sur Europe 1. Il est 5h25, n'oubliez pas votre rendez-vous tout à l'heure avec Historiquement Vôtre. C'est à partir de 15h sur Europe 1. Stéphane Bern revient sur les événements, les lieux et les personnages qui ont façonné l'histoire. Le programme cet après-midi, Omblin.
Lily Bollinger, une dame dans le champagne. Historiquement Vôtre de 15h à 16h sur Europe 1.
Dans quelques minutes, le journal de 5h30 avec Christophe Lamar qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Mais d'abord,
et qui s'installe.
Exactement. On va écouter d'abord la chanteuse Emma Peters.
Oui, en attendant la sortie de son nouvel album, Emma Peters revient avec un nouveau single. Vous écoutez Multicolore. Très bon réveil, bon lundi et belle semaine à l'écoute d'Europe 1.
Seule chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît.
Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Où t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Le lundi matin sur Europe 1 avec la jolie voix de la chanteuse Emma Peters ou le très joyeux Multicolore. C'est un extrait de son deuxième album qui s'appelle Tout de suite, qui sortira le 7 juin. Et la chanteuse Emma Peters repartira en tournée pour présenter cet album sur scène dès l'automne prochain.
Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez le lundi matin sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Dans la prochaine demi-heure, Omblin, la prescription culture.
Alors ça se fait tout de suite moins joyeux avec Héloïse Goua, puisqu'il s'agit ce matin d'une série documentaire sur l'un des faits divers français les plus marquants des des années 2000, l'affaire du Grand Bornand, appelée aussi l'affaire Flactif.
L'affaire Flactif en documentaire, effectivement. Qu'est-ce qu'on va lire avec Nicolas Carreau ?
Alors un polar qui se veut un peu comique, Papy Mariole de Benoît Philippon. Votre invité dans un quart d'heure, Alexandre Lemaire.
Reprendre le contrôle des écrans, ceux que vous laissez parfois à vos enfants, ceux dont ils savent parfaitement bien se saisir aussi. On attend dans quelques jours les conclusions de la commission d'experts, la commission écran des experts qui plaide pour éduquer les parents plutôt que sanctionner. On va entendre la psychologue Sabine Duflo qui souhaite aller plus loin. Il faut interdire, dit-elle, l'usage des écrans chez les enfants autant que possible. Il en va de la santé publique. On va entendre cette thérapeute familiale après le journal à 6h20 sur Europe 1. Le temps pour ce lundi, Anissa Haddadi, ce sera plus lumineux au nord et à l'ouest.
Oui, on va commencer par les régions qui auront droit à un beau lundi. Les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, les Pays de la Loire, jusqu'en Nouvelle-Aquitaine cet après-midi. On a du soleil ailleurs, de l'Occitanie, donc des Pyrénées jusqu'au Grand Est, en passant par la Bourgogne, l'Auvergne, les Cévennes. Alors là, c'est très pluvieux, avec comme hier, des pluies toujours très soutenues sur les Hauts, sur les Cévennes. C'est pas franchement une très belle journée. Sur les Alpes, c'est un temps calme, mais assez voilé, tout comme en Provence. Et sur la Corse, c'est du grand et beau soleil. Les températures cet après-midi, 13 à 26 degrés, 26 pour Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi, bon réveil et bienvenue sur Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
À la une de l'actualité, d'abord cette information Europe 1, enquête ouverte contre Waze. L'application bien connue des automobilistes publierait les adresses personnelles des policiers. Plusieurs plaintes ont été déposées. L'État au secours des activités souveraines d'Atos. Bercy a déjà fait une offre pour reprendre une partie du géant informatique en grande difficulté financière. La vague MeToo arrive maintenant à l'hôpital. Le ministre délégué à la Santé lance une consultation aujourd'hui sur la question des violences sexistes et sexuelles en milieu hospitalier. Et puis c'est un autre effet, l'autre effet sécurité maximale pour les Jeux Olympiques. Les stations balnéaires craignent de manquer de policiers et de gendarmes cet été. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'une des applications préférées des automobilistes. Vous l'avez sans doute déjà utilisée pour trouver votre route. Waze pourrait se retrouver au cœur d'un futur scandale. C'est une information Europe 1. Le domicile de certains policiers aurait été communiqué directement par des usagers. Une dizaine de fonctionnaires seraient concernés, Jean-Baptiste Marty.
Oui, des faits qui remontent à fin mars. Un gendarme réserviste et sa femme rentrent chez eux en voiture, une maison située dans une impasse d'un petit village de 500 habitants. Mais au moment de se garer, stupeur, ils s'aperçoivent sur leur GPS qu'un logo policier s'affiche devant leur domicile. Sans mettre plus loin, même pastille devant l'habitation d'un voisin, quant à lui CRS. Et cette question, qui les a signalés sur cette application accessible de tous? Une aberration pour Reda Bellage du syndicat Unité.
C'est vraiment très très grave. Et aujourd'hui, oui, les policiers ont des craintes. Déjà, à une époque, on ne disait pas à nos enfants de dire qu'on était policier le premier jour d'école. Il faut déjà prendre des mesures par rapport au domicile des collègues qui ont déposé plainte, des mesures de protection, bien sûr, voire de relogement s'ils ne sont pas propriétaires, voire de mutation.
En attendant, les forces de l'ordre concernées ont déposé plainte. Entre 5 et 10 fonctionnaires seraient concernés. Un signalement qui rappelle l'attentat de Magnanville. Un policier et sa femme avaient été tués à leur domicile par des terroristes islamistes.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une mère et son fils de 15 ans en garde à vue à Châteauroux. L'adolescent est soupçonné d'avoir mortellement poignardé un jeune du même âge lors d'une bagarre. L'agresseur d'origine afghane était sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre enquête pour vol aggravé avec violence. Record de pluie battu hier à Lyon. Un mois de précipitations en 24 heures. Conséquence, inondation et glissement de terrain en série. Un TER qui assurait la liaison Firminy-Lyon a dû être évacué après être sorti des voies. La faute à un affaissement de talus. Un seul blessé léger. Pas de reprise du trafic avant mercredi.
C'est maintenant une certitude de Christophe. L'État va bien voler au secours d'Atos.
Le ministre de l'économie l'a annoncé hier sur LCI. Bercy ne veut pas laisser le géant de l'informatique français filer à l'étranger. Atos a perdu 80% de sa valeur boursière en un an. L'entreprise a donc besoin d'argent frais et vite. On parle de plus d'1 milliard d'euros. L'État, lui, a bien l'intention d'y mettre son grain de sel. Marco Fodere.
Oui, et ce pour éviter que des activités stratégiques pour la France ne passent dans les mains d'acteurs étrangers, a justifié hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Concrètement, l'État se positionne sur les activités à la fois les plus sensibles et les plus souveraines d'Atos. Il s'agit de supercalculateurs utilisés entre autres dans la dissuasion nucléaire, des services de communication aussi, sans oublier des produits de cybersécurité. Une nécessité absolue, estime Laurent Hamar, spécialiste cyber et fondateur de France Vérif.
Les coûts de la cybercriminalité ont déjà dépassé les 100 milliards d'euros pour cette année. Donc l'État monte en puissance en investissant dans des sociétés comme Atos pour défendre des éléments structurels de notre cybersécurité.
S'il ne s'agit pour le moment que d'une offre indicative, l'État souhaite faire une offre ferme à Atos début juin, précise le cabinet de Bruno Le Maire. Au total, les différentes activités scrutées par l'exécutif comptent aujourd'hui pour moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe, soit 900 millions d'euros. Un groupe qui reste par ailleurs en grande difficulté financière. L'ex-fleuron de l'informatique a perdu près de 80% de sa valeur boursière en un an.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Le gouvernement épargné par les agences de notation, mais attendu au tournant cet après-midi par les oppositions à l'Assemblée, débat parlementaire sans vote sur la trajectoire des finances publiques. Le déficit devrait dépasser les 5% du produit intérieur brut cette année, la dette frôler les 110%.
Il est 5h34 sur Europe 1, je vous le disais en titre, MeToo arrive donc à l'hôpital. Face à la succession de témoignages et d'accusations, le ministre délégué à la Santé a décidé de réagir.
Et Frédéric Valletoux convoque une réunion sur la question des violences sexistes et sexuelles aujourd'hui au ministère. Point de départ, les accusations de l'infectiologue Karine Lacombe à l'encontre du très médiatique urgentiste Patrick Peloux, qualifié de prédateur. Depuis, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux contre tel ou tel collègues, soignants ou médecins, le ministre bien décidé à ne rien laisser passer. Mélanie Gomez.
La culture de l'impunité, c'est terminé. Il y aura une tolérance zéro. C'est le message délivré par Frédéric Valletoux, car il y a urgence. Ces dernières semaines, les témoignages de femmes ayant été victimes de violences sexuelles ou sexistes au sein de l'hôpital affluent, comme celui de Marine L'Orphelin, ancienne Miss France 2013 et désormais médecin généraliste. Sur le média en ligne Brut, elle raconte les violences qu'elle a subies à 22 ans lors d'un stage en chirurgie.
Par rapport à ma tenue, on pouvait me faire des réflexions. Si je me maquillais, on pouvait me faire des réflexions, poser des questions sur mon intimité. À toi, t'aimes telle ou telle position. Enfin voilà, c'était cette ambiance-là vraiment très très désagréable. Les instances de direction, l'ordre des médecins aujourd'hui doit être plus tranchant et retirer la possibilité d'exercer à certains qui vont trop loin.
Alors justement, Frédéric Valletoux a déjà prévu de recevoir début mai les ordres des médecins, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes ou même des pharmaciens. Le ministre ne veut pas jeter la pierre uniquement sur l'hôpital, car dans ce nouveau mouvement MeToo, c'est le système de santé en général qui doit être regardé.
Mélanie Gomez, chef du service société d'Europe 1.
Et nous, alors, les communes touristiques ne veulent pas voir leurs gendarmes et leurs policiers entièrement réquisitionnés pour les Jeux Olympiques.
Un seul chiffre, Omblin Alexandre, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris. On parle bien sûr d'une seule journée. Il va falloir assurer la sécurité pendant toute la compétition. Ce que l'on prend ici, évidemment, on ne le met pas ailleurs. Et ces effectifs vont donc cruellement manquer dans les régions touristiques. À Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, le maire a pris les devants. Reportage Charles Lullier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
En ce début de printemps très frais, ici, les quelques gendarmes déambulent dans des rues quasi vides. D'ici 3 mois, ils seront à Paris. Une première dans cette ville qui accueille 70 000 touristes l'été. Le maire, Christian Jean-Jean, a donc dû s'adapter.
C'est vrai, bon, ça pose un problème. Donc, nous sommes obligés de renforcer. Nous avons souhaité compenser ce manque de renfort. On est passé de 18 policiers municipaux à 32, plus 15 ATPM, des aides des policiers municipaux. Nos policiers sont armés. Moi, je crois qu'on peut leur faire confiance.
Un effort de 300 000 euros pour la ville. Sauf qu'un été sans gendarmes à Palavas, c'est risqué selon cette restauratrice pour qui les policiers municipaux incarnent moins l'autorité.
En début de saison, on a déjà eu des gens qui sont partis du resto sans payer. Il y a des soirs, il y a des jeunes qui se tapent, on se sent en insécurité. Donc les gendarmes, c'est dissuasif.
Moins de gendarmes, mais des policiers nationaux qui, pour compenser, seront plus nombreux dans le département. Le préfet de l'Hérault, exceptionnellement, ne leur a accordé que 2 semaines de vacances cet été. À Palavas, Charles Lhuillier, Europe 1.
Le football, le PSG sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire. Les Parisiens couronnés hier soir après la défaite de leur dauphin au classement. Monaco battu 3-2 par Lyon. Et à 3 journées de la fin, bien évidemment, aucune chance que les Parisiens soient rattrapés.
Et non, aucune chance. Merci Christophe Lamarre. Il est 5h38. Bon réveil avec Europe 1 dans 2 minutes, Amblin Roche. Le jour où...
Oui, et à travers les archives d'Europe 1, on va revivre l'explosion d'un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'était en avril 1986.
D'abord sur Europe 1, les pronostics du Quintet avec vous Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, c'est sur les 2000 mètres de la piste en gazon du Jockey Club de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce Quintet à handicap qui réunira 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et pour bâtir mon pronostic, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 12, Tilia, 3, Gildad Dragon et 11, Fashion Grey, classés respectivement 2e, 3e et 6e d'un Quintet similaire le 28 mars sur la piste en sable fibré de Chantilly. Et à la lecture de cette performance, ces trois-là doivent automatiquement figurer dans une sélection. On leur opposera les numéros 5, Motis, jamais plus loin que 3e cette année et dont la première tentative dans cette catégorie des handicaps tiercés est attendue avec optimisme par son entourage. 4, Goway, irréprochable et qui peut être considéré ici comme un coup sûr absolu dans les 5 premiers. Et 1, Chartwell, pas des plus heureux dans le Quintet référence du 28 mars à Chantilly et qui auparavant s'était imposé sans aucune émotion dans un handicap. Enfin, les numéros 15, Mérililou et 9, Pestacle, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 3, 11, 5, 4, 1, 15 et 9.
Et vous retrouvez ces pronostics dès maintenant sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1, à 6h20, le jour où l'histoire racontée à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
On revient ce matin avec vous sur la catastrophe de Tchernobyl. C'était il y a bientôt 40 ans, ça s'est passé au mois d'avril 1986. L'explosion du 4e réacteur de la centrale nucléaire propage alors un nuage radioactif à travers toute l'Europe. Tchernobyl est situé en Ukraine, mais à l'époque, on est en territoire soviétique. Or, Moscou va mettre 3 jours à confirmer cet accident. La nouvelle se répand alors en Europe.
Oui, ce 29 avril, des hélicoptères jettent du sable, de l'argile, du plomb sur la centrale pour étouffer le feu et absorber les particules radioactives. Le nuage noir de Tchernobyl s'est formé. Première mention de l'explosion de la centrale, ce jour-là, sur Europe 1, avec le correspondant à Moscou.
Cet accident aurait eu pour conséquence la stérilisation radicale de toute une région et la mort de plusieurs centaines de personnes.
Des spécialistes parlent de 2000 morts en quelques heures sous l'effet des radiations. Mais l'URSS n'annonce officiellement encore que 2 morts. Et à quelques dizaines de kilomètres, des adolescents montent même sur les toits pour admirer le nuage.
Je pensais que c'était l'orage. On a distribué des comprimés d'iode par chacun.
Autre témoignage, en descendant du train ce 29 avril 1986, cette Française qui vit à 2 heures de Tchernobyl ne sait pas encore que ce qui vient de se passer n'est autre que la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire.
On ne voyait pas des gens paniquer. Moi, j'ai encore vu des amis soviétiques à la gare hier soir. Je veux dire, ils ne m'ont même pas parlé de ça d'ailleurs. Pour l'instant, les informations sont tellement minimes que personne ne s'inquiète.
Sous l'effet du vent, le nuage radioactif a filé vers le nord. En France, un reportage météo diffusé à la télévision montre sur une carte un panneau avec le mot « stop », laissant entendre qu'un anticyclone ferait barrage au nuage radioactif à la frontière française. Ce scientifique aussi relativise sur Europe 1.
C'est-à-dire que c'est dans l'air ou est-ce que c'est dans l'eau ?
Dans l'air. C'est très, très, très faible pour le moment. Il n'y a pas eu de pluie depuis lundi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour les populations ?
Non, ça va disparaître.
Et à l'étranger, les satellites espions américain perce peu à peu le mur du silence. En France, le premier communiqué officiel ne sera publié qu'une semaine après l'explosion.
Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. À demain alors pour un nouveau jour sur Europe 1.
Et à présent on joue avec le jour où pour vous offrir, écoutez bien cette semaine, une carte cadeau de 500 euros valable 2 ans sur territoria.com présidée par Alain Ducasse. La communauté territoria rassemble 430 hôtels et restaurants en Europe. Ce sont des établissements premium à taille humaine. semaine. Il compte des centaines de chefs étoiliers. Alors, vous allez pouvoir choisir votre destination. Vous allez pouvoir choisir soit un séjour, soit un déjeuner, soit un dîner gastronomique d'exception. Pas mal.
Quel programme.
Territoria.com.
Bon, il vous reste à répondre à la question du jour pour tenter votre chance, chers auditeurs. Quel réacteur de la centrale de Tchernobyl est à l'origine de la catastrophe? Réponse A, le troisième. Réponse B, le quatrième réacteur.
Vous envoyez évasion par SMS au 739-21, 2x75 centimes, coût du message, et vous répondez à la question du jour.
Bonne chance à tous.
Dans un instant, Alexandre, le rendez-vous culture.
Comme chaque lundi, l'actu des séries télé, on brille avec Héloïse Goua.
Absolument, une série documentaire sur le célèbre fait divers, l'affaire Flactif au Grand Bornand, hein, en Haute-Savoie, et on va lire avec Nicolas Carreau, Papy Mariole de Benoît Philippon.
5h-7h,
Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h43.
Comment réguler l'accès des enfants aux écrans? La commission écran doit rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Alors les travaux ont pris du retard. Ce comité scientifique d'une dizaine d'experts va livrer ses recommandations pour lutter contre l'addiction aux écrans. Elle est bien identifiée chez les plus jeunes et on commence bien sûr à cerner les effets délétères sur leur développement intellectuel.
Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre. Il s'agit de Sabine Duflo, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et membre du collectif Surexposition Écran.
Bonjour Sabine Duflo.
Bonjour.
La commission écran devait remettre ses conclusions fin mars. Elle travaille plus longtemps que prévu. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Sur la responsabilité des parents d'abord dans l'exposition des enfants aux écrans, les experts penchent davantage pour éduquer que pour sanctionner. C'est dans ce sens qu'il faut aller selon vous également ?
Évidemment, c'est plus facile, moins coûteux de faire de la sensibilisation, de la prévention que de légiférer. Mais les deux sont absolument nécessaires. On ne pourra pas s'en tenir à une simple prévention. Bien sûr, il en faut. Il faut une prévention claire, homogène. Mais ça ne suffira pas parce que c'est un enjeu de santé publique. Voilà, tout simplement parce que ces écrans, en tout cas les contenus que regardent majoritairement les enfants, sont des contenus qui induisent des comportements addictifs, c'est-à-dire une impossibilité à s'arrêter de les regarder.
C'est un sujet de santé publique, en tout cas ça l'est devenu. Gabriel Attal a même parlé il y a quelques mois de catastrophe sanitaire, hein, en parlant de l'addiction aux écrans. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table, selon vous, pour que ça change ?
À reconnaître, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. Hein, là, s'il y a cette commission, c'est parce que sur le terrain, les parents n'en peuvent plus, les enseignants n'en peuvent plus. Il faut reconnaître, admettre que ces objets par exemple, je parle du téléphone portable connecté à Internet, n'a rien à faire dans les mains d'un enfant. C'est un objet dangereux parce que il lui donne accès non seulement à des contenus extrêmement dérangeants, traumatisants, donc du pornographique ou violent, mais aussi il détourne des apprentissages, parce que à partir du moment où l'enfant ne peut pas s'arrêter de le regarder, ben tout ce qu'il a à faire pour bien grandir, c'est-à-dire être dans des échanges réels avec les autres, bouger son corps, faire du sport, lire, ben il le fait plus, tout simplement.
Donc interdire le smartphone aux enfants, jusqu'à quel âge ?
Alors, il faudra, ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra des recommandations, mais ça suffira pas. Parce que si partout, dans l'espace public, on incite l'enfant à être en contact avec son portable, soit parce que, par exemple, les professionnels en contact de l'enfant, enfin, en lien avec l'enfant, l'utilisent, soit dans les écoles, on n'en sortira pas, quoi. Donc, il faudra une série de mesures législatives, pas une seule, évidemment, mais une série qui vont protéger l'enfant. Alors, nous, le collectif Cause, dont je fais partie, propose pas d'écran connecté avant 15 ans. Avant, on peut prendre un téléphone pour téléphoner, tout simplement. Hein, pour téléphoner. Une responsabilisation des professionnels de l'enfance par rapport à l'usage de leur propre smartphone, qui soit l'exemple, c'est-à-dire dans tous les lieux où on reçoit les enfants, les ados, que les adultes en charge de ces enfants et ces ados n'utilisent pas leur portable en présence de l'enfant. Et puis, on en met dans les collèges pour certains enseignements, mais pas avant. Ça n'a pas de sens.
Sabine Duflo, à la crèche, à l'école, que ce soit de la maternelle au lycée, on voit assez bien comment mettre en place des mesures de restriction ou d'interdiction, mais à la maison, tout simplement, je pense à tous les parents qui sont confrontés à la tentation de laisser leur enfant devant un écran. Alors, soit, est-ce que c'est pour éviter une colère? Est-ce que c'est pour avoir les mains libres à un moment? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout prix? Est-ce qu'on peut le faire de temps en temps? Alors, qu'est-ce que vous leur dites?
On le fera. De toute façon, on ne pourra pas mettre un gendarme dans chaque maison, mais ça ne sert à rien. Il faudra agir comme on l'a fait pour tous les grands autres enjeux de santé publique. Je pense notamment à l'alcool et au tabac. On n'a pas commencé à interdire dans les familles. On a légiféré dans l'espace public. Interdiction pour un mineur d'acheter du tabac avant 18 ans, d'acheter de l'alcool pour un mineur, etc. Donc, à partir du moment où il y a cet exemple-là qui est donné, bon, rien n'empêche le parent de faire boire son enfant en famille ou de lui faire fumer. Mais en tout cas, cet exemple-là est donné, l'interdiction est posée. Et les familles, elles ont besoin de s'appuyer sur des exemples pour ensuite peser sur d'un point de vue éducatif sur leur enfant. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller.
Alors, le point de vue éducatif, Sabine Duflo, chez les très jeunes enfants, on voit beaucoup de témoignages de parents qui sont désemparés, hein, qui comprennent pas pourquoi les écrans seraient si nocifs. Ils parlent de tous ces programmes éducatifs hein, en ligne qui pullulent, hein, qu'on trouve en masse. Ça, ce sont de faux amis.
Ben, ils comprennent le problème en général quand l'enfant arrive en petite section maternelle et que au bout de la première journée, la maîtresse appelle les parents et leur dit là, écoutez, ça va pas du tout, il comprend absolument pas ce qu'on lui dit. Il déambule, voilà. En général, ça, ils ont vite fait de le comprendre. Si vous voulez, le problème, c'est que comme vous l'avez souligné, ben, c'est très pratique pour les parents parce que ça scotche l'enfant, ça le sédate, ça l'hypnotise, si vous voulez. Mais en même temps, un enfant, pour se développer, pour acquérir les principales compétences que sont le langage, que sont une attention focalisée, une régulation de son comportement, toutes ces compétences-là, il ne peut les acquérir que dans l'interaction continue, à peu près continue, avec ses parents, ses frères et sœurs et ses pairs PAIR. Quand il est mis devant un portable, plus de la moitié du temps d'éveil ou un écran, hein, il ne peut pas acquérir ses fonctions essentielles.
Quels sont les repères que vous donneriez aux auditeurs d'Europe 1, Sabine Duflo, à avoir en tête sur le temps d'écran maximum qu'on peut ou pas laisser aux enfants en fonction de leur âge? J'imagine déjà, en dessous de 2 ans, de 3 ans, c'est zéro écran. Hein.
Oui, c'est zéro et surtout, on n'utilise pas aussi les écrans, on les regarde pas quand on est en présence de son enfant,
en présence,
qu'il n'y ait pas cette fameuse technoférence, c'est-à-dire interférence de l'écran dans le développement de l'enfant. Enfin, la simple sensibilisation, ça change pas. Les parents, faut arrêter, ils ont bien compris qu'il y avait un problème, ils n'ont pas besoin de découvrir, ils veulent juste des solutions, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut essayer de trouver ensemble.
Bon, écoutez, merci en tout cas pour ces repères que vous nous donnez ce matin sur Europe 1. On attend maintenant, en tout cas dans les prochains jours, les recommandations de la commission écran qui devrait donner peut-être le ton de la politique française de contrôle des écrans. Merci Sabine Duflo. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Très bon réveil avec Europe 1. Dans un instant, l'actualité des séries télé. D'abord à 6h10, le journal permanent. Christophe Lamar.
L'État au secours d'Atos. Bercy a déjà fait une offre pour reprendre les activités les plus sensibles du géant français de l'informatique. Annonce du ministre de l'économie hier soir. La vague MeToo arrive à l'hôpital. Le ministre délégué à la Santé lance aujourd'hui une consultation sur la question des violences sexistes et sexuelles en milieu hospitalier. Une mère et son fils de 15 ans en garde à vue à Châteauroux. L'adolescent est soupçonné d'avoir mortellement poignardé un jeune du même âge lors d'une bagarre. L'agresseur d'origine afghane était sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre enquête pour vol aggravé avec violence. Le football, le PSG sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire à 3 journées de la fin du championnat. Les Parisiens couronnés hier soir après la défaite de leur dauphin au classement, Monaco battu par Lyon 3-2.
Merci Christophe Lamar. Le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Bon lundi matin, merci de choisir Europe 1, il est 5h52, votre rendez-vous culture.
Allez, un bon livre d'abord pour bien démarrer la semaine. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Vous nous proposez ce matin, Nicolas, un polar, mais celui-ci a l'air d'un polar plutôt drôle.
Plutôt, whisky n'empêche pas la profondeur, au contraire même, ça s'appelle Papy Mariol. C'est chez Albin Michel, signé Benoît Philippon. Regardez la couverture, c'est lui, Papy Mariol, un vieux monsieur en peignoir avec dans son dos une carabine mal dissimulée.
Bon alors, Papy Mariol, déjà effectivement, pour un polar, ça donne le ton, hein. C'est le héros, Nicolas.
Oui, mais j'y reviens, ça commence avec Mathilde pour l'instant. Une jeune femme, c'est pas la joie, lèvres fendues, dépenaillées, l'air hagard, elle marche sur le bord de l'autoroute, pieds nus, le souffle court. Elle a été victime de revenge porn, je peux vous le dire. Un camion vient de la frôler, ça commence à être très dangereux. Elle voit un pont un peu plus loin, elle s'y dirige. Chapitre 2, hagard aussi, voilà Mariol, c'est son nom, enfin son surnom, 77 ans, ancien tueur à gages à la retraite, forcé pour cause d'Alzheimer. Il était dans un EHPAD, mais quand on le rencontre, il est en peignoir, les mains dans les poches sur les boulevards des Maréchaux à Paris. Il a quelques flashs de lucidité quand même, c'est le cas maintenant, et il se demande bien ce qu'il fait là. C'est ce que lui demandent aussi d'ailleurs les pompiers qui ont été appelés par des passants. Ça se voit pas, je joue en thalasso, leur répond-il.
Bon, pas commode, hein, le Mariol, Nicolas.
Non, il en a marre. Ouais. Marre de ne plus savoir qui il est. C'était quelqu'un dans le métier du panache, de la dextérité, des faux airs, de Jean Rochefort même, dit-on. Et soudain, il se souvient, il n'a pas terminé le dernier contrat. C'était ça ce qu'il taraudait. Eh bien, il va s'en occuper, coûte que coûte. Seul problème, mais de taille, il ne sait plus non plus qui est la cible. Vous allez me dire, quel rapport avec Mathilde ? Eh bien, les deux vont se rencontrer, et miracle, les deux peuvent être bien utiles l'un à l'autre. La vengeance est donc en route. C'est drôle, oui, mais pas seulement, c'est pas du comique lourdeau, ça va loin, c'est délicat, intelligent, mais surtout, surtout, ça sonne juste.
Papy Mariol, c'est donc un polar, signé Benoît Philippon, c'est chez Albin Michel. Merci Nicolas Caro.
L'actualité des séries télé à présent sur Europe 1 avec Héloïse Goua.
Bonjour Héloïse.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Vous nous conseillez cette semaine une série documentaire assez glaçante, hein.
Oui, une série qui plaira, j'en suis sûre, à tous les adeptes des histoires de Christophe. On l'a dedans, on la te raconte, puisque cet excellent documentaire décortique l'un des faits divers les plus marquants des années 2000.
Une famille du Grand Bornand, activement recherchée en Haute-Savoie.
On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De cinq à la fois, c'est tout à fait exceptionnel.
Les enquêteurs n'écartent pour l'instant aucune hypothèse.
L'affaire du Grand Bornand, ou l'affaire Flactif. En avril 2003, Xavier Flactif, son épouse et leurs trois enfants disparaissent sans laisser de traces. Dans le chalet savoyard de la famille, à première vue, rien n'a bougé. Mais quelques semaines plus tard, les policiers découvrent l'horreur.
Le plus effrayant, c'était des morceaux de dents de lait dans les rails du plancher de la cuisine.
Il ne fait plus de doute dans notre esprit qu'on a affaire à 5 meurtres.
20 ans après les faits, le documentaire intitulé « L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière » revient sur ce quintuple homicide qui a tenu en haleine la France entière pendant de longs mois d'enquête.
Et comment cette série documentaire, Héloïse, nous raconte toute cette histoire ?
Les quatre épisodes retracent très précisément et chronologiquement cette investigation complexe qui a finalement permis de mener au coupable. Les témoignages sont très puissants et émouvants. On entend notamment le beau-fils de Xavier qui devait passer ses vacances dans le chalet au moment de la disparition. Et puis, le doc se sert de beaucoup d'images d'archives, des interviews de voisins diffusées à la télé à l'époque. Ces témoignages se révèlent particulièrement glaçants quand on connaît l'identité du criminel que vous entendez ici.
Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Ouais, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas.
Les autres témoignages sont des sources proches de l'enquête. Elles interrogent la place des médias et des rumeurs urbaines dans l'avancement de l'investigation. À la hauteur de cette terrible affaire qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, cette série doc se regarde comme un thriller haletant, fascinant et bouleversant.
L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière. C'est donc une série documentaire à retrouver sur MyCanal. Merci Héloïse Goua. 5h55, lundi 29 avril, très bon réveil. Avec Europe 1, la météo d'Anissa Haddadi arrive dans un instant.
Votre interview écho, Alexandre Lemaire à 6h40.
C'était hier la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Il y a en France beaucoup de retard à rattraper dans le domaine. Chaque jour, deux personnes en France perdent la vie dans un accident professionnel, c'est beaucoup plus que la moyenne européenne, quasiment le double. Le bâtiment est un secteur évidemment très concerné. On va retrouver ce matin Nicolas Godet, le patron de Point P, spécialiste de la vente de matériaux. Point P qui lance aujourd'hui même une campagne de sensibilisation des artisans à la sécurité au travail. Il nous en parle à 7h20 sur Europe 1.
Juste après le journal Pressing, les articles à lire dans les journaux ce matin.
À 6h20 après le journal, votre partition Omblin.
Une chanteuse qui doit sa carrière française un électricien.
Si la poussière part, tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère.
Je vous raconte le destin de la chanteuse indonésienne Anggun dans 20 minutes. Et elle a fait une belle rencontre, plutôt inattendue donc.
Vous nous racontez ça tout à l'heure en Blind Rush. Dans quelques instants, le journal de 6h sur Europe 1. Mais d'abord, le temps pour ce début de semaine, Anissa Dehi. C'est une nouvelle journée de pluie que vous nous annoncez.
Une nouvelle parce que oui, Alexandre, il a beaucoup plu depuis la mi-octobre. En gros, le cumul sur les 7 derniers mois entre le 1er octobre et le 30 avril, donc jusqu'à demain, ce cumul va dépasser les 750 mm et se classer donc deuxième année la plus pluvieuse après 2000-2001 sur les 65 dernières années.
Ah oui, c'est un record marquant.
On fait partie des années les plus pluvieuses et aujourd'hui, rebelote, c'est reparti. De nouveau, beaucoup de pluie entre le Languedoc et le Lyonnais avec des pluies très soutenues du côté de l'Hérault et des Cévennes. Il a déjà beaucoup plu dans le sud ce week-end, il va encore beaucoup pleuvoir aujourd'hui. Alors on a une bande pluvieuse qui va des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne en passant par l'Auvergne, la région Rhône-Alpes. Toute la journée on a des pluies dans ce secteur et au bord de la Méditerranée. Le retour de la neige sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres, 2300 mètres pour les Alpes. À l'arrière de cette perturbation, alors là c'est agréable, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et cet après-midi entre la Vendée et le Pays Basque, là vraiment au bord de l'Atlantique, on aura du soleil dans ces régions-là. Mais attention, quand on regarde la carte de plus près, on se rend compte qu'en fin de journée, de nouveaux nuages arrivent sur la Bretagne, ce qui annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour demain, donc de nouvelles pluies. À l'avant de cette zone pluvieuse entre les Pyrénées et la Bourgogne, donc de l'Alsace à la Côte d'Azur, là c'est calme, on n'a pas de pluie, mais on a un ciel vraiment très voilé où on aura du mal à apercevoir le soleil. Finalement, il y a une zone où tout va bien et où il fait beau. C'est où ? Eh ben c'est en Corse.
C'est en Corse.
Oui, c'est en Corse.
Nos amis corses.
C'est
oui.
En Corse parce qu'en face, vraiment au bord de la Méditerranée, ça sera très compliqué. En Provence, on a un temps sec, mais alors sur le Languedoc-Roussillon, ça sera très pluvieux, ce qui est une bonne nouvelle pour les Pyrénées-Orientales qui connaissent
une sécheresse record
cette année. Les températures, que du positif ce matin, 3 degrés à Vannes, 6 à La Rochelle, Orléans et Guéret, 11 degrés ce matin à Paris et Lyon, 14 à Marseille, 15 à Nice et cet après-midi, 13 à 26 degrés, ça augmente, 13 à Aurillac, 14 à Brest et Toulouse, 19 degrés à Paris et Lille et 26 pour Ajaccio, la maximale.
Merci Anissa Dehi. Que lit-on ce matin dans la presse ? Eh bien que le Larousse va fêter ses 120 ans. Chaque année, le dictionnaire Larousse accueille des mots nouveaux. On va vous en livrer quelques-uns de ces nouveaux accueillis dans le dictionnaire 2025. Dans le pressing, rendez-vous donc